Bonjour.
Ah oui, j'aime bien. Un mot que j'aime bien.
Des papiers, des mots, une invitée et une histoire à raconter. Voilà le podcast des petits papiers.
Faire rire, c'est son choix. Elle qui n'a pas toujours rigolé, à en croire son parcours et les thèmes de son dernier spectacle. Oui, je sais, c'est le titre du spectacle qu'elle aurait pu appeler Vulnérable, mais c'était peut-être pas assez porteur pour faire rire, justement. Avant celui-là, il y a eu Mère indigne et égoïste, deux autres seules en scène où la matière première était aussi son vécu. Et encore avant cela, il y a eu une grosse dizaine d'années de travail en entreprise, dans les RH et puis en tant que responsable marketing dans une grande société de cosmétiques qu'elle a quittée après un burn-out parce qu'elle le valait bien et qu'il était temps de penser à un avenir épanouissant. Aujourd'hui, sur son site internet, il est marqué « blaguiste ». Et moi, je trouve que c'est plutôt joli comme appellation. Bonjour Olivia Moore.
Bonjour.
C'est joli blaguiste.
J'aime bien.
On dit jamais ça.
Non, on dit humoriste, mais je trouve blaguiste un peu plus léger et un peu plus fidèle à la réalité parce que je crois que c'est en tout cas chez moi, ça représente ce besoin de faire des blagues quand la situation m'échappe.
Oui.
Donc voilà.
C'est quelque chose que vous avez toujours pratiqué depuis l'enfance, de désamorcer les choses avec de l'humour?
Je crois que ça a été vraiment un élément un peu de survie. Oui, dans les situations tendues, j'ai toujours bien aimé. En fait, j'aime pas quand les gens sont mal à l'aise. J'aime pas quand c'est tendu, quand c'est difficile. Mais j'ai toujours bien aimé, oui, essayer de prendre du recul, en fait. C'était ma façon de prendre du recul.
Souvent, c'est une manière de se protéger. Hein. C'est ce que
absolument.
Beaucoup de gens qui pratiquent l'humour disent, c'est que c'est une manière de se mettre une carapace. Est-ce que l'humour est une carapace pour vous?
Alors c'est drôle, moi je le vis un peu à l'inverse en réalité, parce que l'humour, je n'arrive à le pratiquer que si j'ai justement sorti la sève et le suc d'une situation et que je suis allée à l'essentiel de cette situation. Et au contraire, chez moi, ça sert plutôt à exposer vraiment toute l'essence d'une situation, y compris quand elle est dramatique. Et c'est ce que je fais dans mon spectacle, c'est-à-dire que je parle de trucs qui ne sont pas forcément hyper marrants, mais comme j'ai réussi à vraiment en faire le tour et aller chercher l'essentiel, je peux faire des blagues sur cet essentiel. C'est ça qui fait que ça passe en réalité.
Alors donc ce spectacle, il s'appelle « Oui, je sais ». Vous dites que c'est un spectacle qui tourne aussi autour de la manière dont on se construit psychologiquement.
Absolument. Les précédents, dans Mère indigne, je parlais vraiment de charge mentale et puis un peu de la culpabilité qui était liée au statut de parent et de mère en particulier. Dans Égoïste, j'avais choisi une espèce de recentrage personnel sur l'image qu'on a de soi et les rapports de séduction. Et ça tournait un peu autour de la culpabilité. Et là, je crois que vraiment l'émotion sur laquelle j'avais envie de travailler, c'était la honte. La honte qu'on se trimballe. En fait, moi, pour écrire ce spectacle, je me suis dit, de quoi je parlerais sur scène si j'en avais plus honte? Et j'ai fait le compte. Et puis, j'ai arrêté d'avoir honte de certains trucs. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais parler de ça. Ça va être intéressant.
Alors, par exemple, pour les gens qui ne l'ont
alors,
pas vu.
Par exemple, je démarre soft hein, sur mes incompétences sentimentales. C'est très, c'est très gentil. Après, je parle de mes rapports avec mes parents qui ont été vraiment difficiles et que je ne vois plus aujourd'hui. Donc, et on en parle dans la salle. Enfin, je demande aussi aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont coupé les ponts avec une partie de leur famille? Ce qui est une façon de normaliser, en fait, ça. Et précisément de faire sortir les gens qui le vivraient d'une forme de honte ou de culpabilité par rapport à ça. Et je parle aussi de ce que j'ai vécu enfant, à savoir des agressions particulièrement violentes et qui font partie de ma construction psychologique en réalité et aussi des défenses que j'ai mises en place. Mmh.
Est-ce que le jour de la première de ce spectacle, puisque c'est quand même des choses assez profondes et douloureuses, ça a été un petit peu effrayant, plus que pour les autres?
Alors en fait, je pense pas que j'aurais pu écrire ce spectacle en démarrant dans l'humour. C'est bien que ce soit le troisième spectacle parce que j'ai appris à être vraiment une blaguiste de scène et pas juste une blaguiste dans la vie. Donc non, pour moi, c'était pas effrayant en fait. Il est un peu commun de dire quand vous êtes sur scène, vous faites votre thérapie. Non, enfin moi, je suis sur scène pour la rentabiliser ma thérapie parce que en réalité, je pourrais pas évoquer des choses qui sont pas guéries chez moi.
Oui, qui sont pas digérées en tout cas.
Ouais, il faut que ce soit digéré, il faut que ce soit guéri, au moins à 80% pour. Oui, parce que je déteste les spectacles qui sont des prises d'otages, vous savez, où on vous expose des choses dramatiques et en tant que public, tout à coup, on se retrouve scotché à la chaise en disant cette personne va très très mal, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour elle? Et moi, je veux pas que les gens sortent en se disant la pauvre, elle va mal, mais plutôt elle a quand même traversé des sacrés trucs, mais sa façon d'en parler fait du bien. Parce que je sais très bien que dans la salle, il y a des gens qui ont traversé des choses aussi qui sont très difficiles, ou pas, ou qui connaissent des gens et qui sont parfois démunis face à des choses dramatiques. Et j'ai envie de leur donner aussi, un peu le chemin de la... J'allais dire la légèreté, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas le chemin de l'acceptation de ce genre de choses. Voilà, il y a des épreuves qui font partie de la vie et il y a des façons de les accueillir. Et moi, j'essaye de donner un chemin pour accueillir ça, voilà, avec juste la bonne prise de recul, c'est-à-dire à la fois de la compassion, mais en même temps sans se laisser déborder par la situation ou par le drame.
Alors, si c'est pas thérapeutique, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous montez sur scène ?
Alors, je le dis, je monte sur scène pour me faire des amis, je crois.
Ouais. Mais vraiment ?
Un peu, ouais. C'est, en fait, je crois que ça aussi, c'est fait partie des choses qu'on se demande, en fait, quand on monte sur scène, dans, tiens, quel est le rôle que je donne au public ? Moi, sur scène, je me vois comme une soliste avec son orchestre. Ça veut dire que j'ai vraiment un sentiment d'une connexion qui se fait et d'un ajustement réciproque. Et on n'existe pas les uns sans les autres. C'est-à-dire que oui, moi, je suis soliste parce que je viens avec un texte et que j'ai posé un cadre. Mais si l'orchestre est pas avec moi, on passe un moins bon moment. Je peux le faire, mais et je considère aussi que le public a une forme de responsabilité dans sa présence, et parce que les gens se sont engagés, en fait. Enfin, ils sont venus, ils ont acheté une place, ils se sont organisés pour ça. Surtout dans les grandes villes, ça requiert quand même un peu d'organisation. Et j'aime bien que les gens aient ce sentiment de responsabilité dans la connexion qu'on va établir.
Ce que vous mettez en place dès le départ,
Oui, absolument.
Olivia Moore est notre invitée aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Alors, Olivia, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des papiers. Vous en piochez, hein.
Alors, qu'est-ce que ça dit ? Assumer.
Ah oui, j'aime bien.
Un mot que j'aime bien. Il évoque la responsabilité. En fait, la responsabilité, alors, ça peut sembler pesant, ça peut parler de contraintes, mais à vrai dire, pour moi, la responsabilité, c'est plutôt un chemin de liberté intérieure. Je trouve que c'est la planche d'appui quand on est justement dans la, notamment dans la honte ou dans la culpabilité. Je trouve que la responsabilité, c'est ça qui aide à sortir en fait de cette position qui nous enferme et qui nous restreint, parce que la honte comme la culpabilité sont vraiment des postures de d'enfermement en fait. On a tendance à se recroqueviller parce que dans les deux, il y a une forme de déception de soi-même, alors de soi par rapport à soi dans la culpabilité, puis de soi par rapport aux autres dans la honte. Et je trouve ça, pour moi en tout cas, c'est sur des émotions extrêmement paralysantes. Et je préfère être dans une démarche de « Ok, je prends ma responsabilité dans cette situation ». Donc ça peut être dans la vie sentimentale, pour rester un peu léger, et voilà, se dire « Mais enfin, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec des types qui ne me correspondent pas ?» Et j'entends des gens qui disent « Ah là, je tombe toujours sur des connasses, ou je tombe toujours sur des sales types, ou des pervers, etc. » Et sans dénier la responsabilité de l'autre. Mais j'ai aussi ma responsabilité. Et dans les rencontres que je fais, bah, ma responsabilité, c'est de bien me connaître. Moi, je sais que le nombre de fois où j'ai privilégié en fait mon besoin d'attention sur tous les red flags que la personne présentait. Et vraiment, moi, on pouvait me présenter le diable. J'étais il m'a montré de l'attention, donc bon.
Oui, il y a aussi dans l'humour peut-être une nécessité. J'imagine que ça vient avec le temps aussi d'assumer ce dont on rit. Parfois, vous êtes un peu trash, hein, parfois sur certaines choses. Je pense notamment aux enfants. Il y a des choses qui peuvent étonner ou choquer, mais il faut les assumer.
Oui, en fait, je suis plus cash que trash, au sens où pour moi, trash, c'est vraiment, enfin, je reviens à la définition de base qui est la poubelle. Et mon but, c'est pas d'exposer les poubelles, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que j'ai conservé une forme de naïveté enfantine. Vraiment, à l'intérieur de moi, il y a une petite fille qui passe son temps à dire, mais le roi est nu. Et avec les enfants, bah, par exemple, dans Mère Indigne, j'avais vraiment très à cœur de dire, écoutez, faire des enfants est un moment immense et transformateur, etc. Mais sur un plan logistique et même psychologique, c'est parfois tellement difficile. Et parfois, il y en a maintenant, c'est une parole qui sort, de dire qu'il y a des femmes qui ont le regret d'être mère. C'est-à-dire qu'on peut adorer ses enfants et détester le rôle de parent. Surtout, je pense, si ce rôle de parent s'est identifié à toutes les injonctions que la société et les gens autour de nous ont portées. Alors c'est vrai, moi j'ai la chance effectivement de m'être libérée de pas mal de choses et d'essayer d'avoir... Voilà, je me suis adaptée, j'ai trouvé un pont entre ce que la société me demandait et ce qui me semblait juste comme équilibre psychologique pour tout le monde. Ouais.
Par rapport aux enfants, par exemple, vous êtes maman.
Absolument.
Donc, vous avez des ados, je pense.
Oui, maintenant j'ai des ados.
Ouais. Comment ils vivent ça, eux ? Vous les préparez à ça en disant, c'est un spectacle, les gars.
Exactement. Bah, mon premier spectacle, ça a été une vraie conversation qu'on a eue parce qu'ils étaient petits. Et en plus, le sous-titre de mon spectacle, c'était « Mère indigne, les enfants sont parfois un peu plus cons que prévu ». Donc vraiment, c'était un discours assez novateur à l'époque. Il n'y avait pas grand monde qui le disait, mais... je me souviens, mon fils notamment m'avait dit, mais tu nous trouves cons? Et je dis, non, c'est pas vous, c'est les enfants d'autres gens. Et il m'avait dit, tu trouves que nos copains sont cons? Je dis, non, c'est encore les enfants d'autres gens. Et après, sur scène, je racontais ça et je disais, comme il est un peu con, il m'a cru. Parce que c'est la petite part de provocation, mais en fait, je pense que ce genre de choses, on peut le formuler quand justement c'est absolument certain que ce n'est pas un, comment dire, un jugement définitif ou quelque chose qui peut s'interpréter au premier degré. Évidemment que non. Mais en fait, par exemple, cette phrase-là, elle traduisait typiquement cette espèce d'impatience terrible qu'on a en tant que parent quand on répète 200 fois la même chose, que notre progéniture adorée, que l'amour de notre vie n'écoute pas et fait quand même la bêtise devant notre nez. Et on est là, mais il est con, il le fait exprès. Et c'est plus, je dirais, ouais, une impatience et puis une forme de micro-désespoir. Je ne vais jamais y arriver. Parce qu'en fait, le sous-texte, c'est ça, c'est « je vais jamais y arriver ». C'est notre incompétence qui est derrière, en réalité. Ou en tout cas, la peur d'être un parent incompétent, d'être un mauvais ou une mauvaise éducatrice. Enfin, c'est... J'avais envie de relayer aussi cette énorme inquiétude qu'on a, cette pression qu'on se met.
On en revient à la culpabilité, hein, d'être un mauvais parent. Et de... Est-ce que ce spectacle, ça vous a aidé à évacuer une partie de ça, peut-être, quand même ?
Mérindini, par exemple ?
Ouais.
En fait, j'étais contente de me rendre compte que je n'étais pas la seule à partager mon propre point de
vue. Voilà, j'allais dire, vous avez dû avoir des retours, beaucoup, des gens qui sont venus vous voir. Et puis, vous avez fait... Il y avait une page Facebook aussi.
Oui, qui s'appelait Truc de Mérindini,
ouais. Oui, et puis pas mal de vidéos. Donc, il y avait du retour. Ça vous a aidé ?
Oui, beaucoup. En fait, c'est ça aussi qui a fait que j'étais... Ça m'a montré que j'étais dans la bonne voie, entre guillemets, sur le plan humoristique et humain. Moi, c'est vrai qu'en tant que blagueiste, j'ai du mal à faire des blagues gratuites, entre guillemets. Moi, je sais pas faire de la distraction pure, et j'adore le clown, etc. Mais je ne sais pas faire ça, en fait. Moi, je ne sais que utiliser la blague pour donner du sens à ce que je vis et à ce que les gens vivent. Donc, c'est vrai que je n'étais pas sûre d'avoir raison non plus. Enfin, moi, j'ai essayé de traduire en blague, qui est un langage, voilà, mes déceptions, mes difficultés, mes colères, mes tristesses, mes frustrations. Et de voir que ce langage-là, il permettait en fait de rencontrer toute une communauté de gens qui vivaient la même chose et qui ne pouvaient pas forcément l'exprimer et qui m'écrivaient après en me disant c'est tellement déculpabilisant, c'est tellement, on s'y retrouve tellement, etc. Et en fait, c'est un peu la marque de fabrique de tous mes spectacles. Ouais. Je cherche presque à donner des mots aux gens pour exprimer ce qu'ils vivent aussi finalement.
Je l'ai dit au début de l'émission, Olivia Moore, ce spectacle, vous avez pensé à un moment à l'appeler vulnérable. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir assumer, la vulnérabilité.
Absolument. Bah, c'est complètement le propos du spectacle, oui, je sais. Le point de départ, c'était de dire, arrivé à un certain moment, en fait, on continue quand même à se trimballer ses incapacités, ses défauts, etc. Et oui, je sais, c'est ma réponse. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais t'es encore en retard là. Oui, je sais. Je te présente mes excuses et j'essaierai de faire mieux, mais ça se peut que ça se reproduise parce que c'est constitutif. Et alors, je tiens à préciser pour les auditeurs et les auditrices, je ne suis pas en retard exprès. Je suis souvent
en retard. Vous étiez à l'heure aujourd'hui. Hein. Je tiens à le dire.
Écoutez, merci infiniment. J'ai mis toute mon énergie là-dedans et ma concentration. Mais en fait, je subis un trouble du déficit de l'attention dont je parle pendant le spectacle. Et voilà, je fais énormément de blagues là-dessus. Mais une des conséquences de ce trouble, qui est un vrai trouble neurologique, c'est un trouble du développement, malheureusement fait que par exemple je peux complètement perdre la notion du temps n'absolument pas savoir quelle heure il est, mais je peux perdre aussi la notion de l'espace, enfin voilà, et ça c'est cérébral, c'est pas une espèce de la comédie. Donc ça me demande énormément de concentration d'être à l'heure.
Mais ça vous a aidé de savoir que vous souffriez de ce trouble, de ce TDAH,
Oui, parce que le trouble du déficit trouble déficitaire de l'attention, en fait, une des premières choses utiles quand on en souffre, c'est précisément la psychoéducation. C'est-à-dire, c'est de savoir comment ça se manifeste. Ça permet vraiment de se remettre les idées au carré. Là, en vous parlant, je suis en train de me dire, bon sang, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Oui, ça, c'est typiquement ça. Je traduis cette histoire de TDAH dans le spectacle. Je dis, en fait, mon cerveau, il a la capacité de concentration et d'organisation de Olaf dans La Reine des Neiges. C'est-à-dire, si vous me dites « attention, rendez-vous demain matin à 10h à la gare, sois bien à l'heure », je fais « oui, bien sûr, une carotte voilà. ». Et ce trouble-là, en fait, c'est pas tant qu'on ne parvient pas à se concentrer, c'est qu'on ne choisit pas sur quoi on se concentre.
Mais alors, quand vous êtes sur scène, ça doit être compliqué. Parce que là, il y a plein de
distractions.
De distractions.
Oui, absolument. Il faut absolument que la salle soit dans le noir. Sinon, si je vois trop les gens, je me laisse happer par le regard des gens, par leur expression. Et j'ai déjà, globalement, constitutivement, pas mal de gens qui parlent à l'intérieur de moi. Je pense que quand même, quand on est sur scène, ça requiert cette compétence-là aussi. C'est-à-dire d'être capable d'être à la fois concentré sur un texte, être dans son corps pour le jeu, en même temps percevoir ce qui se passe dans la salle. Enfin, c'est une espèce de tour de contrôle aussi. Mais effectivement, oui, le piège pour moi, c'est la distraction. Donc, en fait, on me dit, comment vous retenez tout ce texte ? Je dis, en fait, la clé pour moi, c'est la concentration. Donc, c'est d'être hyper concentré et vraiment de mettre mon cerveau en mode... on n'a pas le droit de sortir, entre guillemets. Alors, je fais des improvisations, souvent sur scène, etc. Mais c'est comme une ligne de chemin de fer, en fait.
On en parle là, on en parle avec légèreté, avec le sourire, oui. Mais est-ce que ça a été simple d'en rire de ce trouble ?
Alors au tout début, non. Notamment parce qu'on me l'a annoncé, enfin moi j'ai 49 ans et on me l'a annoncé il y a 3 ans. Et ça veut dire que j'ai passé 46 ans de ma vie à confondre mes symptômes et ma personnalité, malgré tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment un trouble qui impacte énormément d'éléments de la vie, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, enfin. Et donc non, le début était difficile avec à la fois, j'ai eu une forme de soulagement de « Ah, c'était ça !» donc une baisse de ma culpabilité.
Voilà, j'allais dire une déculpabilisation.
Voilà, vraiment, une belle déculpabilisation en disant « Ok, donc j'étais pas fautive, quoi. C'était pas... voilà. » Et en même temps, un peu... je sais pas comment dire. Mon orgueil était un peu touché, en fait. De me dire « D'accord, et je vais pas forcément pouvoir faire beaucoup mieux. Je vais pouvoir faire avec et je vais faire mieux avec. En revanche, ça ne s'arrêtera jamais. Je n'en guérirai pas. » Parce qu'en fait, c'est pas une maladie, c'est un trouble, donc on n'en guérit pas. Et ça fait partie de la catégorie des handicaps invisibles, en plus.
Ouais.
Et c'est des choses où on peut beaucoup souffrir. Enfin, je peux parler des enfants, notamment, puisque mes 3 enfants subissent également ce trouble. Et à l'école, par exemple, et c'est l'image que j'avais aussi, ils ont une image de « Oh, bah, de toute façon, ils font jamais leurs devoirs. Bah, de toute façon, ils vont aux évaluations au talent. Toute façon. » Et donc, on nous prend un peu pour des glandeurs, en fait. Et pour des glandeurs qui ont de la chance, alors que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que pour nous, passer à l'exécution des devoirs ou réviser une évaluation dans les temps demande un effort et une contrainte qu'on n'est parfois pas capable de fournir, notamment si on n'a pas des parents qui sont très attentifs à ça et qui savent gérer, qui ont la psychoéducation pour le faire. Donc, ça a été.
Olivia Moore est notre invitée aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Tiens, juste une question par rapport à votre parcours, parce que j'ai dit que vous aviez été 10 ans en entreprise, dans les RH et puis dans le marketing. J'ai lu aussi que vous aviez eu envie de passer le Conservatoire d'art dramatique à Paris, que vous avez donc présenté une candidature et que quand vous êtes arrivée pour passer le concours que vous aviez préparé, parce que ça nécessite une grosse préparation.
Absolument.
Le concours d'entrée au Conservatoire de Paris, vous avez fait demi-tour.
Ouais. J'ai vu tous les gens, j'ai vu tellement de gens et j'y ai pas cru. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Je vois pas pourquoi moi j'y arriverais, c'est sûr qu'ils sont tous bien meilleurs et je pourrais pas, j'y arriverais pas.
Ouais.
Et donc j'ai lâché. Voilà, il y avait aussi des choses pratiques. C'est que moi, ça faisait plusieurs années que j'étais indépendante financièrement de mes parents. Je suis partie assez jeune. Et si je rentrais au conservatoire, je ne pouvais pas avoir un job salarié à côté. Et l'un dans l'autre, je me suis dit, ce n'est pas le bon chemin, je ne vais pas le faire.
Vous l'avez regretté ou pas ?
Un peu. Oui, j'ai regretté parce que je me trimballe quand même un peu ce complexe de ne pas être une entre guillemets vraie comédienne. Et quand je fréquente des gens qui, elles et eux, ont fait le conservatoire, je les regarde un peu avec des étoiles dans les yeux et j'ai envie de leur dire « Oh là là, apprenez-moi comment jouer de façon aussi intelligente, aussi fine. » Mais en réalité, je pense que ça s'est joué avant aussi. Je regrette un peu de ne pas avoir eu l'audace, par exemple après le bac, de prendre mes clics et mes claques et partir étudier en Angleterre, en fait. Et apprendre, par exemple, à Shakespeare, Royal Company. Ça, je pense que c'est surtout ça qui aurait vraiment changé ma vie. Je pense que ça aurait été ça, ouais.
Olivia Moore est avec nous aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Olivia, je vous laisse choisir un mot, allez-y.
Allez, les petits papiers. Voilà. Empathie, oh oui. Super, c'est un mot que j'aime beaucoup.
Oui.
Ouais. En tout cas, je la cultive, oui. Mais aussi, je pense, parce que ça rejoint la question de la construction narcissique. Ce que j'appelle construction narcissique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avoir une bonne image de soi et qu'est-ce qu'on fait pour que les autres aient une bonne image de nous. Et quand on est enfant, on n'est pas toujours caractérisé par l'empathie parce qu'on est très guidé par ça, parce qu'on veut que nos parents soient contents essentiellement. Donc, on n'a pas ce recul de se dire « Oui, mais attends, parce que mes parents, ils veulent que je fasse ça, mais moi, qu'est-ce que je pense qui est juste et quelle image j'ai envie que les gens aient de moi, etc. » Et c'est petit à petit, en cultivant l'empathie, au sens... être capable de se mettre dans les baskets de l'autre, c'est-à-dire sortir ses propres critères de jugement pour se mettre vraiment à la place de l'autre, pour être plus juste dans son comportement. Mais je trouve que c'est un truc qui s'apprend tous les jours, et notamment dans ce truc de construction narcissique et de qu'est-ce que je fais pour que les gens aient une bonne image de moi, je me suis rendu compte en fait que ça c'est illusoire, chaque fois qu'on essaye de contrôler ce que les gens pensent de nous, on fait une erreur. On perd un temps fou déjà, parce qu'on ne peut pas contrôler l'image que les gens ont de nous. Alors évidemment, on a des codes de société, c'est-à-dire qu'on est poli, globalement on est souriant, qui sont les codes de base de la société. Évidemment, on respecte la loi, mais sorti de ça, en fait, on peut éventuellement l'influencer, mais en réalité, c'est extrêmement égocentrique de penser qu'on peut contrôler l'image que les gens ont de nous.
Et quand on monte sur scène, l'image que les gens ont de vous, ça doit être encore plus, quelque part, préoccupant.
Oui, oui, absolument. Parce qu'en plus, il y a ce truc un peu fou de il y a qui je suis dans la vie, il y a qui je suis sur scène. Est-ce que ce sont deux personnes différentes ou est-ce que c'est juste qui je suis dans la vie que je mets en scène pour que ce soit montrable ? Et petit à petit, moi, maintenant, je chemine vers ça, effectivement. Avant, c'était vraiment deux personnes distinctes.
Ouais.
Et là, petit à petit, je pense que qui je suis réellement a mangé qui je suis sur scène. Et j'ai maintenant le niveau technique suffisant pour bien mettre en scène qui je suis dans la vie.
Sinon, c'était compliqué techniquement. Il y avait trop de choses à maîtriser et à penser, c'est ça ?
Je pense
pour pouvoir vous lâcher ou vous libérer complètement ?
Oui, je pense que longtemps, j'ai pensé que qui j'étais dans la vie n'était pas suffisamment intéressant à mettre sur scène. Et qu'il fallait que je fabrique des choses.
Ah ouais, parce que vous y êtes allé quand même sur scène.
Oui, mais parce que j'ai toujours adoré la scène. Parce que là, pour le coup, je suis pas persuadée que j'avais un don pour ce métier. Mais en tout cas, j'avais une envie chevillée au corps d'être sur scène. C'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Il y a un petit paradoxe d'ailleurs, parce que pour moi, il y a deux endroits dans lesquels il n'y a pas d'espace et de temps. C'est être en mer, en navigation, et être sur scène. C'est-à-dire que pour moi, le temps disparaît. Alors que c'est pas vrai. Il y a un espace très défini quand on est sur scène, mais je sais pas. Moi, ça me met dans cet état-là.
C'est comme si vous étiez,
dans une autre dimension.
Oui,
presque.
Dans une autre dimension. Ouais. Voilà, c'est ce que je cherchais.
Exactement.
Comme image.
Ouais. Et oui, c'est un moment extrêmement libre en fait. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Et mais voilà, j'avais conscience, ouais, de. Bon, je pense, je vous dis, il y avait quand même un complexe de. Je pensais que qui j'étais n'était pas suffisamment intéressant à exposer sur scène.
Ouais.
Donc il fallait fabriquer un peu. J'avais donc davantage à cœur d'être un relais de parole, c'est-à-dire que je partais de mes ressentis, mais ensuite j'allais vraiment picorer à droite à gauche des situations et des choses comme ça pour pouvoir les mettre en scène et être dans cette transmission. Et plus ça va, plus je vais vers moi, mais paradoxalement, plus je vais vers moi et plus c'est universel en réalité.
Et qu'est-ce qui fait que ce que vous étiez, ce que vous viviez est devenu suffisamment intéressant ?
Parce que j'ai accepté d'aller plus loin.
Ouais.
D'aller plus loin que la surface, c'est-à-dire qu'en fait, chacun de mes spectacles va de plus en plus loin. J'ai montré la surface qui était l'image maternelle, qui est un rôle social, pour aller de plus en plus vers, vers la réalité, vers le fond.
Vous avez accepté aussi peut-être de lâcher ce contrôle, cette envie de contrôler ce qu'on pense de vous ? C'est-à-dire que vous pouvez vous dire aujourd'hui, oh, c'est pas très grave si...
Ouais. Je pense que c'est surtout que je pense que je valide suffisamment ce que je suis et comment je me sens pour que ce soit moins douloureux si des gens l'interprètent d'une autre façon ou même le désapprouvent. Mais ça part de la vie privée. En fait, moi j'ai décodé d'ailleurs assez récemment, mieux vaut tard que jamais, mais justement qu'est-ce que j'essayais de contrôler chez les autres dans ma vie privée pour être aimée en fait, pour les obliger entre guillemets à m'aimer. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis dit, je crois qu'il faut arrêter.
Ouais.
Et voilà, je me suis un peu en quelque sorte réconciliée avec moi-même et arrêter de vouloir absolument faire en sorte que les gens m'aiment. Ouais.
Comment vous vivez les critiques sur par exemple les réseaux sociaux ou parce que vous publiez encore des vidéos.
Oui, bien sûr.
Vous êtes assez présente. Comment vous vivez ça ? Est-ce que vous les regardez ? Est-ce que vous faites abstraction ? Est-ce que finalement, ce n'est pas très important ?
Alors, ça dépend un peu de mon humeur. Comment je les vis ? De toute façon, évidemment, quand ce sont des encouragements, je suis extrêmement touchée.
Oui.
En fait, je suis plus touchée par... c'est pas tant le « vous êtes génial, vous êtes tellement drôle » qui me touche que le « ah, ça m'a aidé ». Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit justement qui a des enfants qui ont un TDAH et elle m'a dit « Depuis que j'ai vu votre spectacle, je le vis avec beaucoup plus de recul parce que voilà, je décris des images qui sont assez marrantes. » Et elle me dit « Je repense à l'image que vous avez donnée et ça me fait marrer. Donc, quand je suis sur le point de leur hurler dessus, je repense à cette image, ça me fait rigoler. Et du coup, je suis plus cool. » Et ça, voilà. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment le truc le plus gratifiant du monde.
Alors une utilité.
Ouais.
Et quand les... parce que sur les réseaux sociaux, n'est pas toujours très gentil, ni très justifié d'ailleurs. Hein, parfois,
absolument.
C'est assez gratuit.
C'est exactement
Comment
ça.
Comment vous faites avec ça ?
Alors, effectivement, quand j'anticipe que ça va être très désagréable, et effectivement, moi, j'ai des raids de trolls masculinistes. Vraiment, ils s'organisent, ils se mettent en bande et tout. Je suis flattée de recevoir toute cette attention. En fait, je pense que... Bon, j'évite de les lire parce qu'effectivement, ça reste quelque chose qui est douloureux pour moi. Pas tant dans la critique parce que... À vrai dire, je pense que les gens qui envoient des vacheries sur Internet ne se rendent pas compte à quel point un artiste est critique vis-à-vis de lui-même. Donc, c'est pas la critique qui nous touche. En tout cas, moi, ce qui me touche, c'est ce que je perçois de l'intention.
Ouais. C'est l'injustice aussi de se faire attaquer gratuitement.
Non, ça, je crois que ça y est, j'ai accepté qu'il y avait des gens qui avaient besoin de décharger une forme de colère, de frustration, ou même juste que ça amuse de dire des choses moches. En revanche, non, ce qui me peine profondément, c'est vraiment sur un plan humain. C'est-à-dire que je me sens vraiment peinée, désolée de voir des gens cultiver la méchanceté. Et vouloir me l'adresser. Enfin, mais c'est pas tant le fait que ça soit adressé à moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis autant atterrée quand ce sont des commentaires épouvantables adressés à d'autres. C'est pour ça que j'évite de les lire, parce que je sais que je vais être très touchée sur un plan humain, que ça va me manger de l'énergie, que je vais ressentir une forme de désespoir. Alors qu'en fait, bon, bah voilà, c'est un état de fait. Moi, ce que je peux juste faire, c'est continuer à créer des choses et à envoyer de la lumière pour que ça se passe un peu moins comme ça. Donc, voilà.
Olivia Moore est notre invitée aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Bah justement, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook.
Partout, partout. Sur LinkedIn, sur je ne sais plus quoi. Je me suis même mise sur TikTok, je n'y suis pas beaucoup, mais je publie. Voilà.
Oui, mais enfin, bon, si on veut voir les vidéos, c'est plutôt Instagram, Facebook où on trouve le relais.
Les Petits Papiers.
Eh bien, allez-y, choisissez un mot, je vous en prie.
Allez, je reprends le mot. Place. C'est une quête, je crois. Enfin, moi, j'ai toujours été dans la quête de trouver la place qui était juste.
Ouais.
Donc, que ce soit au sein de ma famille d'origine, je dirais que qu'en tant qu'éducatrice et qu'en tant que parent, qu'en tant qu'artiste, qu'en tant qu'amie, enfin, et c'est et je me dis bon, il y a des éléments de justesse dans la place qu'on choisit, mais je me rends compte que c'est mouvant, en fait. C'est mouvant, c'est-à-dire que on est dans cet ajustement permanent avec ce qui se passe autour de nous, avec les gens qui sont autour de nous, qui eux-mêmes occupent des places. Alors parfois ils se rigidifient, ils s'accrochent à une place. Parfois au contraire ils n'arrêtent pas de bouger, on ne sait plus comment se situer. Enfin, c'est vrai que c'est une question qui est hyper intéressante. Enfin, moi j'ai longtemps cherché ma place dans le milieu de l'humour. Enfin, et je l'ai cherché aussi parce que je cherchais une sorte de famille professionnelle.
Je pense que vous avez commencé en 2011. Hein.
Ouais, absolument.
Vous avez en tout cas arrêté de travailler. En entreprise, mais là aussi, on a l'impression, quand vous le racontez, que vous ne vous sentiez pas à votre place.
C'est vrai, mais j'aurais adoré y être. Enfin, ouais. Je veux dire, moi, je m'inscrivais quand même dans le projet. J'avais envie, j'avais une ambition raisonnable de diriger des gens, etc., et de faire du management, et de créer des produits, etc. Mais est-ce que je me sentais... En fait, c'est pas tant techniquement que relationnellement que je me sentais pas à ma place, très clairement. Mais ça, si j'avais su que j'avais un TDAH, ça m'aurait évité un certain nombre de péripéties. C'est en ça que je dis que c'est vertigineux.
Et vous pensez que vous auriez pu continuer, ne pas du tout alors faire de l'humour et monter sur scène et
si je l'avais su avant, j'aurais eu un parcours probablement assez différent. Après, ça ne veut pas dire que je ne me serais pas gourée. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais fait l'erreur de me dire, bon, c'est bon, donc je sais comment m'adapter, etc. Mais j'aurais eu un parcours sans doute très différent,
Alors, trouver sa place dans l'humour, ça n'a pas été simple non plus, c'est ce que vous venez de dire. Surtout quand on débarque, j'imagine, qu'on n'est pas tout jeune et qu'il faut se roder peut-être au plateau, aux scènes ouvertes et à toutes ces choses-là. Comment ça s'est passé? Vous ne vous êtes pas sentie accueillie? Comment ça s'est passé?
Alors, je me suis sentie accueillie par certains, rejetée par d'autres, mais ça, je crois que c'est vraiment le lot de la vie d'artiste.
C'est un milieu de compétition? Vous diriez
oui, quand
ça,
même. Ouais. C'est quand même un milieu très compétitif. La différence avec les entreprises, c'est qu'on n'est pas dans le même bureau que les gens avec qui on est en compétition toute la journée. Donc ça, c'est quand même assez reposant. Donc moi, c'est pas une compétition que je vis trop mal. Et puis, à vrai dire, si vraiment on veut arriver, enfin, si la priorité c'est de développer une fibre artistique, ce qui était vraiment mon cas, assez vite, faut arrêter de se comparer. Enfin, moi, j'essaye de rester plutôt dans l'admiration des gens dont j'aime le parcours. Que dans « mais pourquoi c'est cette personne-là qu'on a appelée et pas moi ?» Mais c'est très difficile. Au début, c'est horrible. Au début, vraiment, on a l'ego trituré. On se dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas ? Et pourquoi est-ce que je ne fais pas ci ? Et j'aurais été meilleur qu'un tel pour faire ça ?» Enfin, vraiment, c'est avec... Et ça, c'est vraiment un piège, je trouve. Cette espèce de sentiment d'injustice. Et du coup, on se sent rejeté. En plus, quand on a un TDAH, on a une dysphorie de rejet. C'est-à-dire que le plus petit signe de non-accueil devient un drame. Donc, au début, ça a été très dur. Et puis, petit à petit, ça s'est beaucoup détendu chez moi, à la grâce du confinement aussi.
Ah oui ?
Oui, parce que là, l'espèce de grande course de fond des humoristes s'est arrêtée d'un coup. On a tous arrêté de tourner ensemble. Et là, ça m'a posé. Je me suis dit, mais tu n'aimes pas ta vie, en fait ? J'ai dit, si, elle est formidable. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'arrivait, mon parcours me convenait parfaitement. Mmh. Enfin, il correspondait à mon équilibre de vie personnelle et à la liberté dont j'avais besoin. Mmh. Donc, c'est aussi ça. La place, c'est aussi... On peut parler d'adopter sa place. C'est-à-dire que parfois, on a une place et on rechigne à l'adopter en disant non, 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 c'est pas ça. Souvent pour des raisons narcissiques, justement, par désir d'attention, désir de reconnaissance, etc. Mais en fait, parfois, on se rend compte que, ah non, non, mais en fait, c'est très bien là où je suis. Ça me va, je suis très contente.
Quand on a l'empathie comme qualité, ça ne doit pas être simple non plus de se retrouver sur des scènes où il y a de la compétition ou dans des endroits comme ça.
Alors moi, c'est un cadre, le cadre de la compétition est de toute façon un cadre qui me met mal à l'aise. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas. En fait, vraiment, là, pour le coup, Olaf se détourne complètement de cette question-là. Ça ne l'intéresse pas. Et je dirais même, enfin, et moi, sur un plan émotionnel, vraiment, ça me met mal à l'aise. Je n'aime pas ça. Parce qu'il y a une forme d'inauthenticité. Ça me ramène au rapport de force. Je dirais que j'ai un peu la même chose avec le rapport de séduction, qui pour moi est aussi un rapport de force. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a toujours cette notion d'essayer de contrôler les autres et de faire dépendre son bonheur et sa satisfaction de ce que font les autres. Et moi, je rejette ça. Donc, du début, ça a été très dur. Parfois, j'ai dû me mettre un cadre vraiment strict pour jouer ce jeu-là parce que je n'avais pas le choix. Notamment parce que voilà, je me souviens de gens qui essayent de vous déstabiliser avant que vous montiez sur scène.
Et
puis moi, ça marchait très bien, quoi.
Ouais.
Parce que ça me mettait tellement mal à l'aise que du coup, je me surveillais à mort et j'étais plus du tout concentrée sur ce que j'avais envie de transmettre et sur la dimension artistique, et beaucoup trop concentrée précisément sur la dimension compétitive et l'efficacité. Il faut que j'aie tant de rire. Au lieu d'être concentrée sur qui je suis sur scène, qu'est-ce que je transmets et quelle connexion j'essaye d'établir avec les gens en face de moi.
Vous avez l'impression que qu'être une femme, c'est encore plus compliqué dans le milieu de l'humour ou pas ?
Oui, bien sûr. Ouais. En fait, le milieu de l'humour est très compétitif et tous les moyens sont bons. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, notamment de garçons hétéros hein, dans ce milieu qui ne pensent pas qu'ils sont misogynes, mais qui nous attaquent sur la base du fait qu'on est des femmes et qui essentialisent en fait nos compétences avec notre condition féminine entre guillemets et voilà, ils s'en servent comme un truc pour nous déstabiliser. Mais c'est pour eux, ça c'est pas être misogyne. Et, ouais. Si, c'est la définition exacte de la misogynie.
Est-ce que vous avez un exemple?
Oh bah oui, c'est les gens qui vont... moi, j'ai eu des humoristes comme ça, qui, par exemple, en sortie de scène, il y a une époque, quand je démarrais, je jouais en robe, je sors de scène, il y a un type assez connu qui me dit « Tiens, on a vu ta culotte !» Et je sais très bien que c'était pour me déstabiliser et m'humilier. Alors bon, à cet âge-là, moi, j'avais déjà 35 ans, 3 enfants, ouais. Donc on ne déstabilise pas comme ça, en fait. Puis bon, j'ai toujours eu un gros caractère, donc je lui dis « Ah bon, elle était de quelle couleur ?» Et ça l'a laissé quoi ? Et je lui dis « Bah, la prochaine fois, tu regarderas mieux. » Mais j'en ai aussi un, oui, qui a fait la poule quand je descendais de scène. Enfin, j'ai eu des tas de trucs comme ça, ouais, des stratégies merdiques. Voilà, et puis enfin oui, on l'entend, la misogynie. Enfin, moi, je me souviens, je suis assez sororale, donc j'essayais de faire en sorte que des programmateurs avec qui j'avais déjà travaillé prennent d'autres filles, par exemple. Et je suggérais le nom d'une fille que je trouvais très talentueuse. Et je lui dis, mais si, elle, t'as pas vu, elle est géniale et tout. Elle me dit, ah non, c'est vulgaire. Je dis, mais tu te fous de moi ou quoi? Il y a ce gars-là, tu l'as fait jouer l'année dernière, c'est exactement le même registre. C'est quoi le problème? Ouais, mais elle, c'est une fille. Et je me souviens d'avoir volé dans les plumes d'un nombre de programmateurs pour ça. Mais voilà, et vraiment, et des trucs, voilà, ou dans des festivals, les types qui vous. C'est ça, un jury de festival qui se met derrière moi comme ça, qui me renifle et qui fait « Ah, oh, j'aimerais tellement qu'on puisse sentir ton parfum quand t'es sur scène. » Enfin, oh, mais voilà, enfin, tous ces trucs-là quoi, qui participent d'une vision qui est conditionnée par le fait que bah, voilà, on est des femmes. Donc, quand c'est une atmosphère de compétition, on a le droit de se servir du fait qu'on est des femmes pour nous déstabiliser. Et quand on est jury de festival, technicien, etc., bah, on a le droit de déclarer que les femmes, elles sont à notre dispo et qu'on a le droit de les draguer en toutes circonstances sans que ça ait de conséquences. Quoi.
Et entre femmes, la compétition, elle est là aussi ?
Oui, elle existe. Alors bon, moi, je ne la cultive pas, donc du coup, je ne fréquente pas celles qui sont très compétitrices, puis je le vois vite.
Oui, mais parfois, vous êtes confrontée par la force des choses, j'imagine que...
Oui, mais j'avoue que je n'ai pas été souvent confrontée à des femmes très compétitrices. Enfin, de toute façon, je pense qu'elles sentent aussi que je ne sais pas mon délire et donc on... Je sais pas comment dire, on s'approche pas. Moi, je suis amie avec des filles dans le métier qui sont des vraies filles bien sympas et qui sont des filles super bonnes, super fortes. Enfin, Tania Dutel, Laura Lone, Elodie Arnoux. Enfin, des filles qui sont, voilà, Christine Béroux, des filles qui sont, en fait, qui avancent, qui tracent, qui avancent. Enfin, voilà, Laura Calu, qui sont des filles hyper performantes, qui font des énormes salles, qui souvent gèrent leur production seule, comme c'est ce que je fais moi. Et je me sens pas en compétition avec elles. Je me sens, non, je me sens plutôt en admiration, en apprentissage, et je suis très heureuse et honorée de les fréquenter, en fait. Mm-hmm. Parce qu'on se parle réellement, on a une connexion qui est réelle et une vulnérabilité qui est réelle. Et on se donne des coups de main les unes les autres, et on se soutient, et je trouve ça bien.
Olivia Moore est avec nous aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Je vous en prie, prenez un mot.
Petit papier. Un petit papier. Musique. Allez.
Ils vous plaisent les mots?
Ah oui, j'adore vos mots, c'est super. Musique, moi j'adore ça. J'adore la musique. Enfin, j'en écoute énormément de tous les registres parce que ça dépend de mon humeur. Voilà, je pense que comme beaucoup d'humoristes, j'aurais bien aimé être chanteuse.
Ah oui.
Mais c'est absolument pas le cas. Mais ouais. Non, vraiment, oui, la musique me sauve.
Vous auriez aimé être musicienne aussi, ou en tout cas faire de la musique, jouer de l'instrument.
J'aurais beaucoup aimé, ouais. Alors avec un TDAH, ça n'aurait pas été évident, effectivement, parce que ça demande un effort de concentration et de régularité qui n'est pas facile à fournir, sauf quand on est vraiment passionné de musique. Mais oui, ça m'aurait plu. Et là, vous me dites, mais vous pouvez toujours vous y mettre, absolument, mais je n'ai pas la concentration et la régularité qu'il me faut pour faire ça. Mais peut-être que je l'accomplirai un jour.
Peut-être.
Je n'ai pas renoncé.
Et quelque chose de musical et de rythmique aussi, quand on fait de l'humour, c'est très important.
Oui. Oui, l'humour, c'est rythmique, de toute façon, et c'est musical. Enfin, moi, je sais que je travaille mes spectacles comme ça. Les respirations sont travaillées comme si c'était une partition. J'ai des accélérations dans mon spectacle, j'ai des moments où je ralentis, et c'est fait exprès, en fait. Et c'est pas uniquement lié à ce que je raconte, c'est aussi lié au rythme que je veux imprimer dans le spectacle. Et puis, parfois, je vais très dans les aigus, parfois très dans les graves, précisément parce que je veux qu'il y ait ces variations de tonalité comme des... Voilà, pour faire jaillir des émotions qui sont un peu différentes. Mm-hmm. Et que ce ne soit pas trop uniforme. Mm-hmm.
Comment est-ce que vous procédez quand vous écrivez votre spectacle, quand vous travaillez? Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Ce que vous écrivez, vous le faites à haute voix, chez vous, toute seule, ou avec quelqu'un avec qui vous écrivez? Comment ça se passe?
Ça dépend un peu à quel stade de l'écriture on est. Ouais. Je dirais qu'un spectacle, il naît toujours d'une note sur mon téléphone qui est interminable. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires, de vannes, de citations et d'aphorismes divers et variés. Même parfois il n'y a rien, mais j'ai juste mis un mot et voilà. Et là je me relis 6 mois plus tard, je me dis qu'est-ce que j'ai voulu dire, je ne sais plus. Ça démarre comme ça. Après j'essaye de l'oraliser effectivement pour démarrer des textes. Là le dernier spectacle par exemple, j'ai dû faire le tri quand même parce qu'il y avait tellement de notions, d'idées, etc. que vraiment je me suis d'abord dit ça c'est plutôt pour des vidéos, ça c'est plutôt pour une chronique, ça c'est plutôt voilà. Et donc je me suis concentrée sur un certain nombre de thèmes. Après j'ai écrit sur chaque thème en essayant de les oraliser. Et puis après ça j'ai carrément, moi je suis partie au Québec, à Montréal, pour aller me faire coacher par des enseignants de l'École nationale de l'humour. Parce que moi je suis une apprenante permanente. Enfin là je vous dis, je me pose beaucoup de questions sur le jeu, mais sur l'écriture c'est pareil. Enfin moi si je peux être nourrie de nouvelles personnes, nouveaux regards, nouvelles compétences, j'adore ça. Donc
j'apprends d'abord qu'à Montréal il y a une école nationale de l'humour qui a donc une école publique.
Absolument, et qui est une école qui existe depuis 30 ans et qui est vraiment le graal de l'humour francophone, en tout cas. Je ne sais plus s'ils le font en anglais aussi, mais et on y apprend de façon extrêmement professionnelle l'ensemble des métiers de l'humour, et notamment, effectivement, l'écriture. Mais l'écriture et le jeu, mais il y a
tout. Vous y êtes allé pour ce spectacle-ci?
Oui, absolument.
Ouais. Et qu'est-ce que vous y avez appris?
Je suis arrivée avec mes 25 pages de texte que j'ai donné à la personne qui m'a prise en charge, qui s'appelle Pascal Mailloux, qui est mon coach d'écriture et que je salue puisque je vais lui envoyer cette émission. Et Pascal, il a lu mes 25 pages de texte. Il a rayé des trucs. Il m'a dit ça, c'est plutôt par là, ça, c'est plutôt par là. Et puis le lendemain, je suis repartie avec mes pages rayées et j'ai passé 8 heures à la table à tout réécrire. Et ça n'était que la version 2. Parce qu'en réalité, je ne sais même pas à la combienième version j'en suis. Je vais être à la version 100, là.
Mm-hmm. Ça bouge tout le temps, le spectacle, encore aujourd'hui?
Moi, ça bouge encore, oui. Ça bouge encore. Mais après, moi, d'abord, j'adore réécrire, très clairement. J'ai tout le temps des idées. Je suis très sensible à ce qui prend, ce qui ne prend pas, quel est le thème qui accroche, celui qui accroche un peu moins. Et puis, ça bouge dans le temps aussi. Il y a des thèmes qui ne prennent pas au début, qui prennent énormément 6 mois plus tard et vice-versa.
Il y a des idées nouvelles qui arrivent. On se dit, ça j'ai envie de mettre parce qu'on n'y avait pas pensé.
On peut réajuster un angle aussi, en fait. Ou mettre de nouveaux exemples, ou il nous arrive aussi des nouvelles choses qui tombent pile dans le thème qu'on évoquait. Donc on enlève toute une part de texte qui est finalement un peu vieille et puis on en met une nouvelle, on la teste et puis on voit si ça roule.
Est-ce qu'on on réajuste un angle, Olivia Moore, parfois, par rapport à des sensibilités, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité ou à des choses comme ça?
Oui, moi j'y suis très sensible.
Vous faites attention quand même de ne pas heurter.
Alors, en fait, je fais attention de ne pas heurter, comment dire, de ne pas heurter inutilement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir heurté par ce que je dis et je suis prête précisément à l'assumer, c'est-à-dire aussi à formuler des regrets, en disant vraiment je regrette de vous avoir heurté par mes mots. Ça, ce n'est pas du tout un problème.
En revanche, je cherche pas à ne pas heurter. En fait, mais ça n'est jamais gratuit. Voilà. Mmh. C'est qu'il y a toujours une intention et c'est une intention que je peux assumer. Et donc, on peut se quitter en se disant, on n'est décidément pas d'accord. C'est-à-dire que je peux formuler des regrets sincères, vraiment. Et si la personne me dit, bah donc vous allez retirer cette partie, je vais dire, en revanche, non. Parce que je sais ce que j'ai envie de dire et c'est pas vous qui allez décider de ça. En revanche, voilà, vous avez parfaitement le droit de désapprouver. C'est tout à fait. Vous pouvez dire, bah non, moi j'aime pas parce qu'elle fait ça. Et ça, je vous en voudrais pas, quoi. Enfin, c'est du libre arbitre de part et d'autre.
Ouais.
C'est de la responsabilité, précisément.
Ben oui, justement. Mmh. Et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important de pouvoir assumer ce qu'on dit sur scène aussi.
Oui, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup de recherches avant de proférer des choses sur scène. Ouais. Si je dois donner des informations sur scène, je fais beaucoup de recherches pour pouvoir... En fait, je me dis, je dois pouvoir être, entre guillemets, incontestable si on écoute mon spectacle au premier degré. Donc, j'ai une exigence assez forte vis-à-vis de ça. Je ne m'autorise pas trop de facilité. Ouais.
Ah oui, quand même. Parce que si on écoute au premier degré, évidemment, il doit y avoir des choses. C'est possible d'être incontestable au premier degré sur tout le spectacle.
J'essaye. Il faudrait que je repasse au tamis là, pour voir. Mais ouais. J'ai fait très attention. Ouais.
Et ça veut dire quoi, être incontestable, alors?
Ça veut dire que... je dis, ce que je dis n'est jamais gratuit. J'essaye de voilà quand je dis des... quand je disais des trucs sur les enfants par exemple quand... tiens bah par exemple là j'ai un passage que j'en trouve déstabilisant mais très très drôle où je demande pourquoi finalement on ne mange pas les enfants parce que après tout les animaux mangent leur progéniture et je dis bah pourquoi nous les humains on a fait le choix inverse et donc je fais des blagues d'humour très noir là-dessus mais je pose une vraie question parce qu'en fait il y a aussi parce que ça devient du coup poser la question de et qu'est-ce qui fait qu'on a décidé qu'on mangeait pas nos enfants mais qu'on mangeait des animaux et au nom de quoi et c'est quoi nos critères et est-ce que du coup alors bon ok l'anthropophagie on a décidé que c'était mal c'est pas juste nos enfants c'est les humains en général d'accord mais en fait le critère qui a fait décider que l'anthropophagie était mal mais que par contre manger des animaux c'était ok bah et aujourd'hui il est peut-être un petit peu dépassé donc est-ce qu'on se poserait pas la question donc moi je propose de bouffer tous les gens qui n'ont pas d'empathie parce que je pense qu'il y a des charolaises qui ont beaucoup plus d'empathie que votre ex. Et ça, les gens sont un peu d'accord avec moi.
Oui.
Et donc, on passe au stade d'après où les gens se demandent si les gens qu'ils détestent sont comestibles.
Donc, c'est une bonne question. Non,
vous voyez, et c'est pour ça que je dis que sur le fond, il y a toujours un fond. C'est-à-dire que je peux justifier le truc. Mm. Et je peux, enfin voilà. C'est-à-dire que là, c'est une forme de provocation. Mais le but n'est pas du tout de faire crier les gens. Le but, c'est de faire avancer sur ce truc-là.
Ouais,
de dire, bah, en fait.
Réfléchir, bah oui. Ouais.
Non, mais ok, on aime tous un bon steak, mais il faut quand même réfléchir à comment on en est arrivé là. Parce qu'en plus, ça a des conséquences aujourd'hui d'aimer manger un bon steak. Des vraies conséquences collectives, donc.
Ben justement, puisque vous évoquez les conséquences de manger un steak, il y a aussi une forme d'engagement, de prise de position. Hein. Je pense que vous êtes assez féministe. Vous disiez tout à l'heure, je me fais attaquer par les masculinistes régulièrement, par troupe. Ça aussi, c'est important pour vous d'avoir un message à délivrer. Et là aussi, comment on fait pour être incontestable?
Bon, ça... Alors, à vrai dire, j'avais pas cette ambition-là du tout. Hein. Moi, mon but, c'était pas du tout de faire du mot engagé. Mais si j'ai besoin d'être un peu authentique, compte tenu du fait que je suis une citoyenne engagée, il est évident que ça va transpirer dans les blagues que je fais. Après... je ne fais pas de politique au sens, je ne cherche pas à convaincre, je ne cherche pas à être élue, je ne cherche pas à ce qu'on m'approuve. C'est-à-dire qu'essentiellement, moi, mon spectacle, il est là pour faire rire. Donc. Et c'est OK que des gens rient avec des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Enfin, moi, il y a des humoristes dont je n'aime pas les opinions ou le registre, mais je suis capable de reconnaître une excellente blague et de dire « ouais, mais elle est quand même très, très bonne ». Enfin, c'est horrible, mais je trouve ça extrêmement drôle et ça peut m'arriver de rire à un truc épouvantable, même si je n'en partage pas le fond. Mm-hmm. Et je compte sur l'intelligence des gens pour ça. C'est pour ça que je suis humoriste ou blaguiste et non pas personne politique. Sinon, je mettrais l'humour au service de la conquête du pouvoir. Et moi, je n'ai pas du tout ça. En fait, je pense que ce qui fait que je suis incontestable, c'est que je n'ai pas du tout d'ambition de pouvoir. Je ne vise pas à régner sur qui que ce soit. J'ai déjà du mal à régner sur ma vie, donc vraiment, la vôtre, certainement pas.
Vous n'avez même pas d'ambition de compétition, donc
non, pas
voilà.
Du tout. Je ne veux pas gagner, je veux mener une vie heureuse, épanouie, remplie de joie. Voilà. Et si je peux semer un peu de joie et de paix autour de moi, ce sera formidable. Voilà.
Elle vous rend heureuse aujourd'hui, cette vie-là?
Oui, très.
Ouais,
très, très heureuse, vraiment. Oui, parce que c'est à la fois une vie qui est exigeante et en même temps qui est quand même hyper gratifiante. C'est hyper gratifiant. Enfin, même, rien que le fait que les gens viennent déjà, je dis c'est fou quoi. Bon, les premières représentations dans lesquelles il y avait plus de gens qui ne me connaissaient pas que de gens qui me connaissaient dans la salle, j'étais hyper reconnaissante.
Ouais.
Et je le vis encore aujourd'hui. Enfin, j'ai encore ce moment de un peu d'épiphanie émotionnelle en disant je suis humoriste, c'est fou quoi.
Oui, oui.
C'est fou.
Des gens viennent me voir parce que.
Oui, des gens viennent écouter ce que j'ai raconté. Enfin, j'ai écrit des blagues, enfin, j'ai observé des choses, j'ai écrit des blagues, les gens viennent, en plus ils en parlent entre eux, en plus ils. Enfin, je suis toujours très honorée de l'énergie et de l'attention que les gens me consacrent.
Ouais. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, Olivia. Vous publiez des vidéos, mais pas de manière.
Pas de manière régulière.
Oui, régulière et compulsive.
Oui, hein, non, ouais,
comme
oui.
On peut le voir parfois.
Ou... Ah oui, ça.
Ouais, parfois, c'est très bien, hein, mais. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vidéos, elles viennent quand, bah, quand elles viennent et
exactement.
Quand vous avez quelque chose à partager.
C'est exactement ça. C'est quand j'ai quelque chose à partager, quand je pense que c'est approprié par rapport au contexte. Par exemple, le délire de faire des vidéos tous les jours. En fait, j'ai pas envie, quoi.
Ouais.
Je préfère être sincère aussi. Et puis, bon, voilà, je suis une TDAH. C'est-à-dire qu'il y a des moments, mon cerveau produit à mort, j'ai 250 idées que j'ai toute envie d'exécuter et je vais toutes les publier, etc. Et puis, il y a des moments, c'est vide, quoi. C'est vide et j'ai pas envie. Puis, honnêtement, j'ai pas. Enfin, je pense qu'on m'attend pas, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quand même.
Non, mais là aussi, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une compétition autour de ça. Donc, c'est là-dedans que vous n'avez pas envie de vous inscrire.
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça va pas... Je vais pas être heureuse, en fait, en faisant ça. Donc, oui, je sais bien que c'est la règle du jeu. Je trouve que je suis suffisamment professionnelle comme ça. J'ai pas envie de m'en imposer davantage.
Ouais.
Et puis, j'ai pas quitté le monde salarié pour devenir la salariée très, très mal payée de Mark Zuckerberg. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est que, à un moment, mais je crois que même si c'était indécemment bien payé de faire une vidéo par jour, je le ferais pas. Je n'ai pas envie. Et puis, en plus, je suis un tout petit peu concernée sur le plan écologique. Pardon, mais en fait, ça mange de la bande passante, ça mange une énergie de dingue. Non. Enfin, je veux pas que les gens. Et moi-même, je lutte pour pas être trop sur les écrans. Donc, s'il y a sans arrêt du nouveau contenu, moi, je trouve que trop de contenu tue le contenu, non.
Pourtant, ça ramène du monde dans les salles.
Oui. Oui, c'est efficace, c'est sûr. Mais là, j'en ai produit quand même vraiment beaucoup. Donc, et je sais que oui, ma survie dépend un peu de l'algorithme de Mark Zuckerberg et autres. Moi, j'essaye de prendre une tangente. Du coup, maintenant, j'essaye d'instaurer un rapport direct avec les gens qui me suivent. Donc, je leur propose régulièrement de s'abonner à la newsletter que j'envoie. Parce que tous les mois, je leur envoie des blagues rien que pour eux. Que mes abonnés qui ont droit à leurs blagues à eux. Et voilà. Et puis, ça me permet de les prévenir quand je passe à côté de chez eux, de leur dire, et voilà, vous pouvez avoir des places en avant-première, etc. Donc, j'essaye de cultiver ce rapport direct. Aussi parce que c'est venu de moi, je fais tout ce que je peux pour être moins sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je me suis mis je ne sais pas combien de filtres parce que j'ai vu que je passais des heures là-dessus et que ça mangeait du temps, de l'énergie que je pouvais consacrer à autre chose. Et maintenant, je me dis, je ne vais pas imposer aux gens qui me suivent de, eux, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, ce serait malhonnête, en fait.
Oui, mais ils le passeront peut-être quand même, le même temps.
Oui, mais au moins, j'en serais pas responsable.
Voilà, vous n'en portez pas. Vous n'avez pas à l'assumer.
Je ne veux pas. Oui, c'est une responsabilité que je ne veux pas prendre, absolument.
Olivia Moret est avec nous aujourd'hui. Le mieux, c'est d'aller vous voir sur scène, du coup.
Alors, ce serait vraiment sympa.
C'est le mieux à faire. Le spectacle s'appelle Oui, je sais. Il est à voir en France pour le moment. On espère vous revoir bientôt en Belgique. Voir toutes les dates
sur mon site internet.
Quand même un peu sur internet.
Oui, mais sur mon site www.oliviamour.fr.
Voilà, et en s'abonnant à votre newsletter.
Absolument, il y a un lien pour s'inscrire sur mon site.
Pour recevoir des blagues rien que pour soi.
Exactement.
Oui. Merci d'être venu.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.
Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Il y a beaucoup d'invités à découvrir et à écouter dans les archives des Petits Papiers. N'hésitez pas à aller fouiller dans les épisodes précédents et pour ne rien rater, à nous suivre et à vous abonner à ce podcast. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, laisser quelques étoiles et des commentaires. À très bientôt.